Suivez votre émission Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, la référence du paiement de factures via le mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Chantal Leroux.
Bonjour, bienvenue dans Appel sur l'actualité. En Angola, les autorités ont décidé de traquer les étrangers en situation irrégulière. Depuis le début du mois d'octobre, plus de 250 000 ressortissants de RDC ont dû quitter le pays. Le gouvernement congolais a vivement condamné ces expulsions massives et les violences qui les ont accompagnées. Qu'en pensez-vous? La réaction de Kinshasa vous semble-t-elle suffisante? Faut-il redouter une crise humanitaire à la frontière entre les deux pays? Votre avis nous intéresse, appelez-nous au 33 9 693 693 70. Mais d'abord, comme tous les matins, place à vos questions sur l'actualité, questions à la rédaction de RFI. On part pour Abidjan, où nous attend Noël, bonjour.
Bonjour Jean-Paul.
Le sujet qui vous a interpellé, Noël, c'est la question des ventes d'armes françaises à l'Égypte et l'usage qui est fait de ces armes. Mardi dernier, Amnesty International a publié un rapport intitulé « Égypte, des armes françaises au cœur de la répression ». Yves Prigent, bonjour. Yves Prigent.
Oui, bonjour.
Vous êtes chercheur à Amnesty International. Merci d'avoir accepté de répondre aux questions de Noël. Noël, on vous écoute.
Oui, en effet, selon Amnesty International, la France aurait vendu des armes utilisées lors de violentes répressions et manifestations en Égypte. Cela irait contre la législation européenne. La ministre des Armées de la France affirme à son tour ne pas avoir enfreint les règles européennes. Alors, de quelles preuves dispose Amnesty International pour formuler de telles accusations contre la France?
Yves Prigent.
Alors, nous nous appuyons sur beaucoup d'éléments, en fait, pour affirmer formuler ces accusations, effectivement, comme vous le dites. Ces éléments-là sont plus de 20 heures de vidéos disponibles dans le domaine public, c'est-à-dire des reportages, des journaux télévisés divers, ainsi que des centaines de photos et environ 450 gigaoctets d'autres supports visuels qui nous ont été fournis par des organisations de défense des droits humains égyptiennes et puis des observateurs présents sur place. Tout l'ensemble de ces éléments-là nous permet de vérifier en fait que non seulement ce matériel a été livré à l'Égypte et qu'il a été utilisé pas par l'armée égyptienne mais par les forces de sécurité intérieure, mais surtout également de vérifier que ce matériel-là a été utilisé sur une longue période entre 2012 et 2014, voire 2015.
Alors le 14 août 2013, près de 1000 partisans du président islamiste renversé Mohamed Morsi avaient été tués au Caire. Est-ce que du matériel militaire français a été utilisé ce jour-là?
Oui, c'est ce que l'on montre, que du matériel militaire français, des véhicules blindés sont présents sur le site. Et au-delà de ce massacre-là, alors que l'Union européenne a prononcé une interdiction, une suspension de toute exportation vers l'Égypte, eh bien les livraisons ont continué à se faire et que le matériel français a continué à être utilisé au-delà de cette date-là.
Noël, vous avez une autre question à poser à Yves Prigent?
Oui, si ces accusations étaient prouvées, quelles mesures Bruxelles pourrait-elle prendre contre la France?
Yves Prigent.
Voilà. Alors, on ne parle pas d'une législation en tant que telle qui pourrait être assortie de pouvoir de sanction, mais d'une position commune du Conseil des Affaires étrangères de l'Union européenne, qui a été d'abord établie en 2008, puis réitérée en août 2013, précisément après le massacre de Rabat dont nous venons de parler. Le fait qu'il n'y ait pas de possibilité de sanction par rapport à cette position commune est bien un des problèmes. C'est pour ça que nous formulons à Amnesty International un certain nombre de recommandations à diriger aux instances de l'Union européenne, c'est-à-dire de contrôler la mise en œuvre de l'engagement qui a été pris en 2013. Il n'y a pas de moyen de contrôle à ce jour, donc il faut commencer par ce contrôle-là. Et ensuite, établir une interdiction de vente ou de transfert vers l'Égypte à partir du moment où ça concerne du matériel susceptible d'être utilisé à des fins de répression interne, parce qu'on voit le résultat dans ce rapport que nous avons sorti la semaine dernière. Et enfin, au-delà au-delà du cas de l'Égypte, nous demandons à l'Union européenne de mettre en place un mécanisme de contrôle d'une façon générale et de sanction également en cas de violation de ces engagements.
Vous n'avez pas l'intention de porter plainte pour l'instant contre la France en justice ?
Alors pas à ce jour. Nous maintenant la sortie du rapport s'accompagne par des échanges, par un dialogue qui continue vis-à-vis des autorités françaises. Même si ça se fait par voie de presse pour l'instant avec les déclarations de Madame la ministre de la Défense. Mais néanmoins, si nous trouvons d'autres éléments, nous nous interdisons aucun mode de recours par rapport à cette situation.
Merci Yves Prigent d'avoir répondu à nos questions. Je rappelle que vous êtes chercheur à Amnesty International. Et sur le même sujet, je renvoie nos auditeurs au documentaire édifiant qui sera diffusé demain soir, mardi, sur France 5. Mon pays fabrique des armes, d'Anne Poiret. On y voit comment Amnesty, mais aussi Human Rights Watch, travaillent pour déterminer la provenance des armes utilisées dans la guerre au Yémen ou la répression en Égypte. Noël, merci à vous d'avoir participé à cette émission. J'espère que vous êtes satisfait. Bonne journée à Abidjan. Posséder et consommer du cannabis récréatif est désormais tout ce qu'il y a de plus légal au Canada. Mercredi dernier, journée historique pour les consommateurs de marijuana. Des milliers de personnes ont pris d'assaut les boutiques qui vendent cette drogue douce au Canada. C'est le sujet d'actualité que vous avez retenu. Évariste, bonjour.
Bonjour Chantal.
Vous nous appelez de Goma en RDC et pour répondre à vos questions, nous avons en ligne Ivana Obradovic. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Évariste, on vous écoute.
Chantal, cette semaine, le Canada a légalisé le cannabis à usage récréatif et devient ainsi le deuxième pays au monde après l'Uruguay. Du coup, je voulais savoir quelles sont les raisons que justifient cette décision et comment expliquer cette mesure n'intervient que maintenant.
Ivana Obradovic.
Alors déjà, il faut préciser que c'est la première fois qu'un pays au niveau fédéral légalise le cannabis à usage récréatif, un pays de premier plan qui est la 10e puissance économique mondiale et qui est au G20. Alors pour ce qui est des objectifs, il y en avait deux principaux. D'abord un objectif de santé publique qui est de réduire la consommation de cannabis, en particulier parmi les jeunes, puisque les adolescents canadiens sont parmi les plus consommateurs au monde, même les premiers au monde. Le deuxième objectif, c'était d'assécher le marché noir, c'est-à-dire, en quelque sorte, couper l'herbe sous le pied des trafiquants, en proposant un cannabis qui soit moins cher et surtout contrôlé par l'État. Alors, au-delà de ces objectifs affichés, il y a aussi des attentes à l'égard de cette réforme. D'abord, une attente en termes de croissance et de diversification de l'économie canadienne, qui a déjà ouvert depuis 15 ans le marché du cannabis à usage médical et qui est aujourd'hui le premier pôle exportateur mondial de cannabis médical dans une vingtaine de pays, y compris en Europe. Et puis le deuxième effet attendu, il porte sur les recettes fiscales avec l'idée de pouvoir engranger à travers le système de taxation des recettes qui permettront de financer la prévention et la prise en charge sanitaire des usagers qui en ont besoin.
Évariste, vous avez une autre question à poser à Ivana ?
Oui, Chantal, je suis curieux de savoir comment sera organisée la commercialisation et la consommation de ce produit.
Ivana Obradovic.
Alors, le cadre général qui encadre la production, la distribution et l'usage est fixé par le gouvernement fédéral. Ensuite, au niveau des États fédérés, donc des provinces, chacun doit définir son système de vente, ce qui veut dire qu'on va avoir des modèles de mise en marché assez différents d'une province à l'autre. Ça veut dire concrètement qu'on aura dans quasiment toutes les provinces de la vente en boutique, c'est-à-dire dans des points de vente spécialisés comme pour l'alcool, et aussi un système de vente en ligne, à l'image de ce qui se fait déjà pour le cannabis médical. Surtout, ce qui est important, c'est que dans certaines provinces comme le Québec, par exemple, ça va être un système de vente à 100% public, alors que dans d'autres, comme dans l'Ontario, ça sera à 100% privé, avec aussi certaines provinces qui ont un modèle public-privé, donc mixte. Donc ça, c'est pour le système de vente. Ce qui est intéressant, c'est qu'il va y avoir aussi moyen de s'approvisionner par l'autoculture. Dans la plupart des provinces, à part le Québec et le Manitoba, chacun va pouvoir cultiver jusqu'à 4 plants à domicile de cannabis. Pour ce qui est de la consommation, Elle va être interdite partout. Il est déjà interdit de fumer du tabac. Mais là encore, certaines provinces et certaines municipalités ont ajouté des restrictions de consommation. Par exemple, au Québec, il sera interdit de fumer dans la ruche. Il sera parfois aussi interdit de fumer à domicile quand les propriétaires immobiliers l'interdisent. Donc vous voyez qu'il y aura une diversité de régimes d'autorisation qui est assez importante, ce qui fait qu'à Montréal, par exemple, selon les arrondissements, on ne pourra pas fumer dans les mêmes endroits et suivant les mêmes conditions.
Ivana, après l'Uruguay et le Canada, quel pourrait être le prochain pays à légaliser le cannabis récréatif ?
Alors, il y a un référendum qui est prévu sur ce point en Nouvelle-Zélande en 2020. Et puis, avant cela, en novembre prochain, au moment des élections de mi-mandat aux États-Unis, il y a deux États qui ont mis la légalisation du cannabis à usage récréatif à l'ordre du jour d'un référendum. Donc, ça pourrait être les prochains, sachant qu'il y en a déjà 8 aux États-Unis qui ont ouvert un marché légal du cannabis aujourd'hui.
Merci beaucoup, Ivana Obradovic, pour ces précisions. Je rappelle que vous êtes directrice adjointe de l'Observatoire français des drogues et toxicomanie. Évariste, merci de nous avoir appelé. Bonne journée à Goma. On reste en RDC avec cette polémique dans le pays autour de l'attribution d'une protection policière pour les candidats à la présidentielle du 23 décembre. Rousseau, bonjour.
Bonjour Chantal et bonjour à tous les auditeurs.
Vous nous appelez de Matadi et c'est notre correspondant à Kinshasa, Patient Ligodi, qui va répondre à vos questions. Bonjour Patient.
Bonjour.
Rousseau, vous avez la parole.
Oui, d'après la loi électorale en République démocratique du Congo, après confirmation des candidats présidentiels à la Cour suprême, tous les candidats doivent avoir 25 policiers pour leur garde. Tel Emmanuel Ramazan Ishadar à ses gardes. Pourquoi jusqu'ici, c'est le candidat du Front commun pour les Congos à ses gardes et les 20 autres non?
Patient, cette protection policière pour tous les candidats, elle est pourtant prévue par la loi.
Effectivement, conformément à l'article 110 bis de la loi électorale, l'État doit assurer la sécurité des candidats à la présidentielle dès la publication de la liste définitive des candidats. Et la même disposition de la loi qui recommande une protection égale pour tous les candidats ajoute aussi que chacun des challengers aura droit à une garde rapprochée de 25 policiers afin d'assurer sa sécurité jusqu'à l'investiture du président élu.
Patient, combien de policiers au total devront être mis à la disposition des candidats ? Patient. Est-ce que nous avons perdu Patient Ligodi, notre correspondant à Kinshasa? Patient, est-ce que vous êtes là?
Je suis bien là.
Ok.
Je suis bien là.
Donc je vous demandais combien de policiers devront être mis au total à la disposition des candidats à la présidentielle?
Je disais donc, c'est au total 525 policiers qui devront être commis à la protection de 21 candidats jusqu'à l'investiture du président élu le 19 janvier 2019. Et les 525 ont été sélectionnés et regroupés à l'unité de protection des institutions et des hautes personnalités. Alors, pourquoi la mesure n'est pas encore appliquée pour tous les candidats? C'est la question. Les ministères de l'Intérieur et la police nationale congolaise disent qu'il y a des préalables qui doivent être vidés. Un premier contact a eu lieu la semaine dernière déjà. Et les discussions entre les autorités de la police et les candidats sur leurs réels besoins en termes de sécurisation ont été entamées.
Rousseau, vous avez une autre question pour Patient Ligodi.
Oui, pourquoi cette polémique arrive maintenant alors que ça fait déjà un mois depuis que la liste définitive des candidats est sortie?
Patient.
Ben déjà parce que cela fait plus d'un mois que cette mesure devrait être appliquée, mais aussi parce que certains candidats de l'opposition comme Marie-Josée Ifoku, Seth Kikuni, disent être l'objet d'harcèlement. Le candidat Théodore Ngoï a même accusé les policiers commis à la protection du candidat de la coalition au pouvoir d'ériger de barrières sur l'avenue des Orangers. Les deux habitent sur cette même avenue. Il affirme même qu'un des policiers l'avait menacé de mort.
Merci beaucoup, Patient Ligodi, correspondant de RFI à Kinshasa. Et merci à vous, Rousseau, qui nous écoutez à Matadi. Armand, bonjour.
Oui, bonjour, Chantal.
Vous nous appelez d'Abidjan. Vous aviez envie d'évoquer la crise qui paralyse depuis plus de 3 semaines le Parlement algérien. Pour vous répondre, nous avons en ligne Kader Abderrahim. Bonjour.
Bonjour.
Vous êtes spécialiste du Maghreb à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques. Armand, on vous écoute.
D'accord. Alors, les députés de la majorité du Parlement algérien le chef du FLN, M. Jamel Oud Abess, et même le Premier ministre, M. Ahmed Ouaya, appellent à la démission du président de l'Assemblée populaire nationale algérien, M. Saïd Bouadja. Ma première question est de savoir pourquoi est-il poussé à la démission. Peut-on y voir des manœuvres politiques contre le président Abdelaziz Bouteflika?
Alors, Kader Abderrahim, est-ce que vous avez une réponse à ces deux questions?
Malheureusement, je crains de décevoir votre auditeur, parce que dans le contexte algérien, c'est très compliqué de donner une réponse tranchée par oui ou par non. Je pense qu'il y a les deux. Il y a des règlements internes au Sérail, et puis comme l'élection présidentielle qui se profile au mois d'avril est plus que risquée pour le régime actuel, on ne sait pas très bien ce qui va se passer. Et puis il y a une hypothèque énorme qui est celle de l'état de santé du président Bouteflika, dont personne ne sait exactement dans quelle situation il est, et même s'il sera en état de se présenter. Donc je pense que les différents clans ou les différents courants ou les sensibilités à l'intérieur du régime, qu'elles soient du FLN ou du RND, sont en train d'aiguiser leurs armes pour tenter en tout cas de prendre l'avantage dans un contexte politique qui est quand même plus que risqué et très aventureux pour l'Algérie.
Qu'est-ce que les députés de la majorité reprochent officiellement au président du Parlement, Saïd Bouadja?
Officiellement, il lui reproche une mauvaise gestion, ce qui est quand même un peu prête à sourire et qui fait beaucoup sourire les Algériens. Et du reste, si vous lisez la presse algérienne, elle est extrêmement critique et très virulente sur la manière dont le FLN, qui est le parti majoritaire, et son allié, le RND, qui est le parti du Premier ministre Ouyahia, l'un et l'autre gèrent cette situation en utilisant des arguments qu'ils devraient d'abord s'appliquer à eux-mêmes quand on voit dans quelle situation aujourd'hui, économique et sociale, se trouve l'Algérie précisément en raison d'une mauvaise gestion. Alors on pourrait peut-être avancer l'hypothèse selon laquelle l'actuel président du Parlement, M. Bouhadjar, n'est pas déterminé à se laisser faire. Et quand même, dans ce bras de fer, il a reçu le soutien d'une association qui est l'Organisation Nationale des Anciens Moudjahides, des Anciens Combattants, qui est très influente à l'intérieur du sérail algérien, très puissante, et qui lui demande de rester à son poste et de mourir debout. Je cite. Donc c'est vous dire à quel point les couteaux sont aiguisés et sortis, et à quel point également le régime lui-même est divisé sur la manière dont il doit assurer la succession du président Bouteflika.
Armand, vous avez une autre question à poser à Kader Abderrahim?
Oui, en effet, vu que M. Saïd Bouadja s'en remet à l'unique décision du président Bouteflika par rapport à la démission, bien entendu, est-ce qu'il y a une procédure pour le forcer à démissionner?
Kader?
Non, la Constitution ne prévoit rien. Elle prévoit qu'il peut y avoir de nouvelles élections en cas d'absence, de vacances, d'incapacité ou de décès, ce qui n'est pas le cas. Il n'a pas démissionné, il n'est pas en situation d'incapacité ni d'incompatibilité, il ne remplit pas une autre fonction que la sienne et il est bien vivant. Donc aujourd'hui, la solution, je dirais, la moins mauvaise pour sortir de cette crise serait de dissoudre l'Assemblée et d'organiser de nouvelles élections. Et dans le contexte actuel, ce serait évidemment là aussi extrêmement risqué pour le régime algérien.
Est-ce que Saïd Bouadja pourrait avoir des ambitions présidentielles?
Je ne peux pas répondre là aussi à cette question. C'est très compliqué aujourd'hui, on est dans une telle situation. On voit bien, et c'est tout l'été quand même, il y a eu des officiers supérieurs, des officiers généraux de l'armée qui ont été soit révoqués, soit mis à la retraite, soit limogés dans la police, dans les douanes, dans la gendarmerie, ce qui est quand même de nature à inquiéter quand même les Algériens quand on sait les périls à la fois aux frontières et à l'intérieur des frontières. Ça déstabilise à la fois les forces de sécurité et donc l'État. Et s'il y a autant de règlements de compte, c'est précisément parce que pour la première fois depuis très longtemps, le Sérail ne parvient pas à se mettre d'accord sur un homme qui pourrait incarner la succession ou la transition d'une manière qui ne soit pas trop heurtée.
Merci beaucoup Kader Abderrahim d'avoir accepté de répondre à nos questions. Je rappelle que vous êtes spécialiste du Maghreb à l'Iris et auteur de La géopolitique du Maroc aux éditions Bibliomonde. Armand, bonne journée à Abidjan.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.